Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
La semaine dernière, on a beaucoup parlé des 50 ans de la STM. D'ailleurs, on aura Philippe Schnob la semaine prochaine, le président de la dite STM. Mais il ne faut pas oublier ces 50 ans de l'Association québécoise sur les troubles d'apprentissage qui est devenue, il y a 2 ans, l'Institut sur les troubles d'apprentissage. Avec nous, Lucille Doiron, administratrice de l'Institut. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous pour nous aider à un peu mieux comprendre tout ce parcours que vous avez fait.
Bien, certainement.
Donc, c'est le mois d'octobre. C'est aussi le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Les gens ont remarqué là, dans les dernières années qu'il y avait plus de personnes en situation de handicap déclarées dans les universités au niveau de l'école, tout ça. Et on remarque, en regardant un peu plus près, que ce sont les personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va? tout ce monde-là?
Alors, ben, je vous dirais que ça va de mieux en mieux si, justement, on observe une déclaration spontanée des étudiants postsecondaires quand ils arrivent à l'université pour pouvoir obtenir des services adaptés à leur réalité quotidienne.
Mais donc, c'est alors, quand ils sont un peu plus vieux que c'est facile, le diagnostic ou l'autodéclaration?
Mais c'est pas que c'est plus facile, c'est que les gens, comme ils ont depuis le primaire des services adaptés très souvent, maintenant, quand ils arrivent au postsecondaire, ils ont des habitudes, ils ont des façons de travailler, ils ont développé des stratégies très, très payantes pour réussir leur scolarité. Donc, ils veulent poursuivre.
Oui. Et c'est important parce que souvent, quand on ne peut pas nommer, par exemple, son trouble d'apprentissage ou qu'on n'a pas appris à composer avec, on vit beaucoup d'isolement, beaucoup de détresse peut-être même.
Absolument, absolument. Et puis, bon nombre de jeunes qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas au collégial, ni même au postsecondaire et qui terminent pas leur secondaire au secteur jeune, ont souvent des troubles d'apprentissage qui ont pas été diagnostiqués ou n'ont pas été soutenus de façon adéquate. Donc, ils se retrouvent en situation de décrochage scolaire très rapidement dans son processus de scolarisation.
Mm-hmm. Donc, en sensibilisant.
Effectivement, beaucoup de détresse.
Voilà. Bien, de la détresse, on veut lutter contre et c'est un peu le même combat qu'avec le décrochage scolaire. Je vous ferai faire un bond de 50 ans, parce que c'est vos 50 ans qu'on célèbre. Oui. C'était comment à l'époque les enfants qui avaient des troubles d'apprentissage? Est-ce que vous avez un peu nous raconter là-dessus?
Premièrement, je vous dirais que la scolarisation obligatoire est là depuis 1986, ce qui finalement, ça fait pas très longtemps.
Ah oui, vraiment?
Mm-hmm. Donc, les troubles obligatoires jusqu'à 16 ans, on s'entend là?
Mm-hmm.
Alors, les troubles d'apprentissage à cette époque-là, si on regarde il y a 50 ans, donc en 1966, les jeunes cessaient d'aller à l'école et ils avaient des étiquettes de doubleur, de pas vite ou ouais. Appelons ça comme on veut.
Ouais.
Alors que fondamentalement, c'était des jeunes et des enfants et des adolescents qui auraient pu avoir un parcours extrêmement prometteur. On appelait ça adaptation scolaire, enfance inadaptée, on appelait ça des classes spéciales.
Oui, hein? Des classes allégées, j'entends ça souvent.
Oui,
ouais.
Écoutez, et ça, c'était à partir de 1970 seulement, mm-hmm. C'était avant ça. Bon, ben, les jeunes arrêtaient l'école et il n'y avait pas de souci à arrêter l'école parce qu'on travaillait avec les parents. Il n'y avait pas seulement les enfants qui avaient des troubles ou des difficultés d'apprentissage ou une lenteur intellectuelle qui arrêtaient l'école à cette époque-là. Il y avait des gens extrêmement doués qui travaillaient avec leurs parents parce que c'était le travail à la terre.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas d'étiquette si stigmatisante que maintenant.
Où on commande, où on demande plus de scolarité. Notre société est devenue plus exigeante à cet égard-là. Et donc, c'est dans quelle foulée exactement que votre association, à l'époque, puisque vous avez changé de nom depuis, comment vous racontez ce début là, de l'Association québécoise sur les troubles d'apprentissage?
Mais en fait, c'est un groupe de parents.
Oui.
Hein, en 1966, qui se sont réunis. C'est un médecin, il s'appelait le docteur Maurice Sabin et sa femme, Hélène, qui invitait une douzaine de parents anglophones à se réunir pour discuter dans une maison de leurs enfants qu'ils connaissaient, tu sais, qui vivaient des troubles d'apprentissage à l'école, mais que l'éducation ne pouvait pas répondre à ce moment-là à leurs besoins. Alors, c'est tout simple, c'est des gens, comme aujourd'hui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de références, qui ont besoin d'accompagnement pour pouvoir avoir des solutions heureuses pour leurs enfants.
C'est les premières personnes que vous aidez, au fond, les parents?
Oui.
Encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui. Nous recevons 3 000 à 3 500 appels téléphoniques et courriels et des rencontres de passage là, et des formations sur place où les parents sont anxieux, sont très, très, très démunis. Encore aujourd'hui, et les parents démunis, ce n'est pas des parents nécessairement qui eux-mêmes vivent des situations de pauvreté, là, si on veut.
Ouais.
C'est tous les parents qui apprennent que leur enfant a un trouble d'apprentissage, ne savent pas en premier lieu qu'est-ce qu'on doit faire.
Ah, c'est ça, on ne sait pas comment commencer.
À qui doit-on parler? Mm-hmm. Quelles sont les meilleures ressources pour avoir un diagnostic? Comment mon enfant à l'école il va se faire des amis? S'il bouge beaucoup avec une dyslexie et en plus il y a un déficit d'attention, comment est-ce qu'on va être capable de l'accompagner correctement pour qu'il termine même son primaire? Hein? J'ai une anecdote. En juin dernier, à la fin de l'année, alors que les bulletins sont tombés et tout ça, et toutes les rencontres de parents sont terminées, il y avait 25 appels sur un seul téléphone. Là, ça, c'était dans une journée. Et pas un seul de ces appels-là n'était pas un parent en détresse.
Alors, oui, parce qu'il est difficile, en plus, d'entrer, d'accéder aux ressources. Donc, il faut vraiment accompagner les gens dans ces premières, j'oserais dire, luttes pour obtenir les services.
Ben oui, et puis effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de
coupures dans les dernières années. N'hésitez pas à le dire, on le dit très souvent à l'émission.
oui, mais je vous dirais qu'il y a un virage important. On est obligé de le dire, il y a un virage dans le moment au ministère de l'Éducation et dans différents autres ministères sur tout le travail qu'on doit faire. Pour scolariser, aller au maximum du potentiel de chaque individu.
Donc, il y aurait des ressources supplémentaires qui viendraient aider les personnes qui ont des troubles d'apprentissage en milieu scolaire?
Les ressources ne sont pas, comment je vous dirais, peut-être que c'est pas, et ça, c'est peut-être pas toujours une analyse de besoin de ressources, c'est peut-être une analyse de comment les ressources sont déployées et à qui ils servent, à qui elles servent ces ressources.
Donc, une priorisation, au fond.
Oui,
okay.
Et peut-être que le ministère a envie de faire un petit peu autrement, et on l'entend souvent notre ministre en parler. On souhaite que tout ça donne les résultats qu'il semble vouloir amener sur le terrain. Là.
Et donc, vous êtes à travailler, vous serez probablement à table, j'imagine, pour discuter de cette nouvelle réorganisation des services?
Mais dès que la table sera mise, on sera très intéressé à s'y attabler.
Bon, excellent. Je vous souhaite un grand buffet. Mais bon, faut pas exagérer quand même. Revenons quand même à votre mois d'octobre, qui en est un de sensibilisation. Quelles seraient, disons, les grandes activités en une minute, auxquelles les gens pourraient participer?
En premier lieu, l'activité la plus en guillemets, payante pour les parents actuellement, c'est le 5 novembre prochain.
OK.
Il y a le colloque des parents qui se passe durant une journée. OK. Et il y aura des activités, des grands experts qui viendront vulgariser pour les parents et puis pour l'Assemblée en général. Et il y aura également des activités pratiques. Il y aura même des consultations privées, si on le souhaite.
Avec des professionnels de la psychoéducation, etc. Ouais.
Avec des orthophonistes, avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux. Donc, on va toucher à la dyspraxie, la dyslexie. On va toucher également les difficultés de comportement, la dysphasie. Il y aura également un atelier sur le TDAH,
dont on parle si populaire, malheureusement.
Souvent.
Oui.
Oui. Et puis, avec un dîner réseautage.
OK.
Donc...
C'est pas très cher, ça?
Non.
OK.
Pour 99 $, ou 149 pour une famille.
Okay.
Il n'y a pas de souci. On accueille tout le monde. Et puis, cette journée-là, pour avoir assisté à quelques-unes, c'est effectivement une journée où les parents peuvent en ressortir mieux équipés.
Bien, on les souhaite. Écoutez, l'émission, le segment tire un peu à sa fin. J'aimerais beaucoup que les gens aillent visiter pour en savoir plus sur votre mois. Donc, il est possible de pianoter le www.institutta.com ou INSTITUTTA.com. Si les gens avaient la dysorthographie, on a pris le temps de bien nommer les lettres de votre site web. Merci beaucoup, Lucile Doiron.
Ça me fait plaisir. Et puis, on invite vraiment tous et chacun là à venir nous rejoindre le 5 novembre.
Donc, rendez-vous 5 novembre. Merci encore.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.